Passage, la nouvelle série de podcasts de l'Institut français. Un échange libre et sans modérateur entre une personnalité des mondes francophones et une personnalité néerlandaise sur des thèmes qui leur sont chers.
Bonjour, je suis Marie-Aude Baronian, professeure associée à l'Université d'Amsterdam au département de Media Studies. Philosophe de formation, j'enseigne aussi sur la pensée française dans ce même département. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Jacques Derrida, parce que nous organisons un événement de 2 jours qui commencera demain. On en parlera un petit peu à la fin. Et dans ce cadre-là, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre discussion Isabelle Alfandari, qui est enseignante et professeure à la Sorbonne Nouvelle, spécialisée en littérature américaine et théorie critique, philosophe et psychanalyste. Isabelle Alfandari a été présidente du Collège international de philosophie de 2016 à 2019. C'est important de le mentionner parce que ce collège a été fondé par Jacques Derrida, justement. Isabelle Alfandari est auteure de nombreux ouvrages. Je vais juste en mentionner 3 qui sont en lien avec ce dont on va discuter. Le premier ouvrage d'Isabelle Alfandari à mentionner, c'est Derrida-Lacan, l'écriture entre psychanalyse et déconstruction, publié en 2016 chez Hermann. Le deuxième ouvrage que j'aimerais mentionner, c'est Science et fiction chez Freud, quelle épistémologie pour la psychanalyse, publié en 2021 chez Itac. Et le tout dernier ouvrage qui vient de sortir, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, Le scandale de la séduction d'Oedipe à MeToo, publié donc tout récemment chez PUF. Alors bonjour Isabelle.
Bonjour Marie-Aude.
Merci d'être là avec nous. Donc j'explique un petit peu à nos auditeurs le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. En fait, on commémore, si je puis dire, bien que le mot n'est peut-être pas le mot préféré pour Jacques Derrida, les 20 ans de son décès. Et dans ce cas, dans ce contexte-là, nous organisons à l'Université d'Amsterdam un colloque où nous avons demandé à 11 théoriciens, à 11 philosophes, à 11 universitaires de parler de leur ouvrage préféré, l'ouvrage incontournable de Jacques Derrida. Alors Isabelle est une de ces speakers, comme on dit. Elle va aussi animer le lendemain une masterclass sur la question du rapport entre Jacques Derrida et la psychanalyse. On va en revenir aussi à la fin de notre discussion. Mais tout d'abord, Isabelle, je voudrais la première question que j'aimerais te poser, c'est qui est Jacques Derrida? Qu'est-ce qu'il représente? On va revenir évidemment sur ce qu'il représente aujourd'hui, mais surtout qui il est d'un point de vue, je dirais, très brièvement biographique, mais surtout quel est son rôle, quelle est sa place dans le paysage de la philosophie française.
Alors Jacques Derrida, c'est un philosophe français qui est né en 1930 en Algérie, à l'époque où l'Algérie était encore une colonie française. Et c'est un philosophe français qui appartient à ce mouvement que parfois on a appelé le mouvement de la pensée française. Dans la deuxième moitié, le dernier quart, notamment du XXe siècle, dans ce qu'on a appelé le mouvement du post-structuralisme, un certain nombre de figures philosophiques vont constituer ce mouvement. Des figures comme Jacques Lacan, Michel Foucault et bien d'autres. Et Jacques Derrida est l'un de ceux qui va animer ce mouvement, qui n'est pas un mouvement constitué, qui n'est pas, mais qui participe au débat, disons, du dernier quart, on pourrait dire, du XXe siècle. Il participe à un mouvement français, mais un mouvement de philosophes qui écrivent et qui parlent en français, mais qui s'adresse non pas seulement aux étudiants français, mais qui entre en conversation avec d'autres langues, d'autres pays, et qui lisent, qui relisent l'histoire de la tradition européenne, philosophique. Et voilà, Jacques Derrida occupe une place très importante dans ce mouvement. Il est lui-même un philosophe qui a une œuvre considérable, un nombre très important de volumes, de livres ont été publiés.
Plus d'une trentaine,
auxquels s'ajoutent de très nombreux séminaires, dont certains sont encore inédits, qui sortent un peu au compte-gouttes en français et traduits immédiatement d'ailleurs en anglais. C'est un philosophe dont il faut dire qu'il est extrêmement lu en français, mais également dans le monde entier. Son œuvre a été traduite. C'est un philosophe très important qui a été, si j'ose dire, l'inventeur, le promoteur d'un terme qui est parfois accolé, qui lui est parfois accolé, et qui est le terme de déconstruction.
Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ce terme consiste et, parce que je sais que c'est difficile, mais non, alors c'est, si tu pouvais nous donner une petite définition de
alors, ce... Alors, c'est ouais. un terme dont Derrida s'est saisi, qu'il a repris d'un terme allemand qu'avait lui-même en partie utilisé un philosophe qui s'appelle Heidegger. C'est un terme dont Derrida s'est saisi pour presque aussitôt, sans distancier quelque peu. Ce n'est pas un terme dont il donne une définition qui est très stable, mais ce qu'on appelle déconstruction, on pourrait dire. C'est une forme de méthode de relecture de la tradition philosophique. Voilà. C'est une manière de relire, mais je donne une définition très générale qui pourrait être contestée, débattue, mais une manière que Derrida a, on pourrait dire, inaugurée, de reprendre l'histoire de la philosophie européenne et de la relire avec une précision très spécifique, qui consiste notamment à faire apparaître dans les discours de l'histoire de la philosophie, de ce qu'on a appelé parfois la métaphysique, un certain nombre d'aspects un peu moins visibles, un peu plus cachés, un peu plus souterrains, et notamment d'un certain nombre de contradictions, peut-être auxquelles les historiens de la philosophie ont été moins sensibles. Donc Derrida, il est, si on veut, l'inventeur d'une tradition, si j'ose dire, qui consiste à relire et à relire avec une acuité, avec une précision extrêmement nette, une histoire de la philosophie qui a été, bien sûr, l'objet de nombreux commentaires et dans laquelle il fait apparaître, on pourrait dire, des strates et des problèmes qui, jusque-là, n'avaient pas été rendus complètement visibles.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis là parce que... je pense que ça explique pourquoi, peut-être pour toi et moi, Jacques Derrida est une figure si inspirante. Ta définition de la déconstruction, même si tu as raison de dire qu'il faut être prudent avec ces définitions, parce que déjà Jacques Derrida n'était pas friand des définitions, ce n'était pas quelqu'un qui aimait le mot de méthode, ce n'était pas quelqu'un qui aimait les systèmes. Moi, je dis toujours à mes étudiants, c'est un pédagogue sans pédagogie. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui nous a appris, quand je dis nous, c'est nous, les chercheurs, les professeurs, mais je dirais aussi, je veux inclure nos élèves dans cette question, à lire les choses, les relire, les déconstruire, justement. Et les déconstruire, ça veut dire aussi les découper, comme il aimait à le dire, avec une précision, une rigueur, mais en même temps, sans suivre de canevas, sans suivre de mode d'emploi. Avec une rigueur qui ne s'oppose pas à la liberté. Je dirais même parfois à la créativité aussi. Peut-être même la poésie. Il y a quelque chose aussi de très poétique dans sa façon très rigoureuse, très précise, très nette, très tranchée, voire même très radicale, de lire effectivement les textes de la tradition, mais aussi les textes, ça c'était certainement quelque chose qu'il a beaucoup fait dans la première partie de son travail, mais aussi de lire et de comprendre et de repenser ou de relancer certaines questions, certains événements, certains objets qui sont, dans une deuxième partie de son œuvre, comme tu le sais très bien, devenus plus politiques, en tout cas de politique de façon plus explicite. Et j'aimerais qu'on aborde ici quelque chose qui, je sais, toi et moi, nous tient fort à cœur, parce qu'on est toutes les deux des enseignantes passionnées, et nous tenons à enseigner Jacques Derrida. C'est quelque chose qui, pour moi, est important, même si je suis aujourd'hui dans un département qui n'est pas uniquement un département de philosophie. Pourquoi, finalement, l'enseigner? Pourquoi? Alors, ça explique aussi un petit peu pourquoi j'avais vraiment très envie, avec mon collègue Joos de Blois, d'organiser ce colloque et cette masterclass avec toi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de Jacques Derrida dans les universités? Alors, j'ai aussi envie de dire au-delà de l'université, d'ailleurs. Parce que, justement, pour revenir à ce que tu disais sur la déconstruction, Derrida, je le dis souvent à mes étudiants, c'est quelqu'un qui n'aimait pas la tyrannie de la réponse facile. C'est-à-dire que c'est le philosophe par excellence, celui qui pose des questions et qui n'a pas la prétention de nous donner des grilles de lecture toutes faites et des solutions. Et alors, d'ailleurs, le fait qu'il n'aimait pas les solutions lui a pas toujours servi dans le sens, en termes de popularité, on va dire, puisqu'on disait tout le temps « Oui, mais Derrida, c'est quelqu'un qui discute et qui rediscute des choses, mais finalement... What's the point, comme on dit, c'est quoi? Et c'est vrai que c'est quelque chose que mes étudiants me disent souvent. Mais en fait, oui, d'accord, mais c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que c'est ça, justement, la force de la pensée de Jacques Derrida, quelles que soient les questions qu'il traite, parce que finalement, il a, on le sait aussi, c'est quelqu'un qui a, d'ailleurs, ça lui a été reproché aussi, qui a parlé peut-être un peu de tout, finalement, que ce soit des grandes questions de la philosophie ou des questions d'actualité, enfin de l'époque dans laquelle il était. C'est quelqu'un qui nous force à ne jamais prendre les choses pour acquises, qui nous force... Encore une fois, on va reprendre le mot de déconstruction, à déconstruire nos schèmes de pensée, à, comme le disait très bien Isabelle, à rendre visible ce qui a été trop longtemps invisibilisé. C'est pour ça qu'il a été très populaire et très aussi apprécié, voire peut-être même instrumentalisé dans ce qu'on appelle les gender studies et les post-colonial studies, parce que c'était un penseur qui aimait faire apparaître et maintenir les tensions. C'est pour ça qu'on dit c'est le penseur de l'aporie. Hein, l'aporie qui est en fait le fait que les choses, les idées, les concepts, les textes restent en tension et ne peuvent se résoudre par un simple choix. Il y a de l'indécidabilité. Et cette indécidabilité, en fait, elle ne nous permet pas tant de dire finalement, je ne sais pas quoi trop en faire, mais elle nous permet de résister à une forme de violence qui serait propre à certains choix, certaines conclusions, certaines décisions. Et donc, en fait, quand on lit des textes de Jacques Derrida avec les étudiants, on apprend d'abord à prendre le temps, parce que je pense qu'Isabelle, tu seras d'accord avec moi, c'est pas, et ça je comprends très bien aussi, au départ, les étudiants me disent mais madame, je ne comprends rien à ces textes. Je dis, mais c'est... Alors, je vais pas leur dire c'est normal, mais il y a une langue de Derrida. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit à la langue, qui réfléchit aux mots qu'il utilise, à la forme des mots qu'il utilise. On lui a reproché d'inventer des mots, ce qu'on appelle des néologismes, mais ce n'est pas parce qu'il voulait se distinguer des autres, ou pas par prétention intellectuelle ou par masturbation intellectuelle, c'est quelque chose qu'il a été beaucoup accusé. Mais parce que, en fait, chaque chose, chaque concept, chaque question est singulière et mérite d'être pensée au cœur des mots, au cœur des concepts, et donc qui peuvent parfois rendre sa lecture un petit peu ardue. Mais en même temps, ce que je dis souvent à mes étudiants, et là c'est une constatation plus générale, l'importance de prendre le temps de lire les choses, de les décortiquer, de les disséquer. Lire Derrida, c'est, et peut-être que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes ce que je veux dire, mais c'est l'inverse de la temporalité de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment, oui, c'est ça, c'est accueillir une autre temporalité et accepter, je vais terminer là-dessus avant de donner la parole à Isabelle, mais accepter la complexité de ce dont on parle. Derrida aimait, ou en tout cas maintenait les tensions. C'était un penseur de l'aporie et c'est un penseur qui reconnaissait la complexité des choses et du monde dans lequel on vivait. Et telle complexité requiert aussi une complexité de langage. Alors, je ne sais pas si toi, c'est un petit peu ton expérience avec tes étudiants lorsque tu leur fais lire ou lorsque tu parles de Derrida.
Alors, oui, absolument. Derrida est un penseur de la complexité. Enfin, il faut dire qu'il n'est pas le seul penseur de la complexité.
Non, bien
l'histoire,
sûr.
Non, parce que parfois, on lui fait un peu ce reproche. L'histoire de la philosophie est pleine de penseurs de la complexité. C'est un penseur de la complexité des questions, de leur émergence, de leur formulation, des tensions parfois irréductibles et insurmontables. Et en fait, la déconstruction, qui n'est pas seulement une méthode de lecture, mais qui est aussi ce qui est à l'œuvre dans les textes, c'est ce que dit Derrida. En fait, on ne déconstruit rien du tout, si on voulait être strictement derridien. On ne déconstruit rien du tout. Ça se déconstruit, comme dit Derrida. C'est-à-dire que si on regarde les textes de près, on aperçoit dans les textes des difficultés, des contradictions, des tensions, qui font que les textes qui ont l'air de présenter des thèses un peu, consensuelles ou unanimes ou unitaires, quand on les lit dans le détail, en fait, sont beaucoup plus aporétiques, tu as dit, beaucoup plus complexes, y compris dans leur sein même. Donc, en fait, Derrida, ce n'est pas du tout quelqu'un, au fond, qui déconstruit au sens où il inventerait une nouvelle méthode qui serait révolutionnaire dans la manière d'aborder les textes. Il lit les textes et il voit comment des processus à l'œuvre dans les textes, des processus qui peuvent être d'ailleurs relativement contradictoires et même qui peuvent avoir une force mortifère, hein, à l'intérieur de textes, sont à l'œuvre. Et peut-être qu'on lui a aussi reproché cela, de faire émerger dans l'histoire de la philosophie des problèmes peut-être un peu nouveaux, ou en tout cas de les mettre en avant sous des angles un petit peu renouvelés. Alors, pour répondre à ta question, Marie-Aude, pourquoi lire Jacques Derrida aujourd'hui ? Je pense que c'est à la fois...
Pourquoi l'enseigner aussi,
et pourquoi l'enseigner ? Mm-hmm. C'est à la fois, d'abord, parce qu'on enseigne d'une certaine manière la rigueur d'une lecture ou la rigueur d'une relecture de l'histoire de la tradition. Et à ce titre, c'est très important. Je pense que Derrida, c'est aussi quelqu'un qui a véritablement fait émerger des questions. Il n'a pas seulement... commenter l'actualité de son temps. Derrida, c'est quelqu'un qui a un rapport qu'on pourrait presque un peu dire visionnaire à la pensée contemporaine, à la question contemporaine de la pensée, qui est la grande question, on pourrait dire, depuis Emmanuel Kant, hein, qui dit que les philosophes doivent s'occuper du contemporain, pas seulement de l'éternité des concepts, mais aussi de ce qui se passe, de ce que Derrida appelle « ce qui arrive ». Et Derrida est un penseur de questions qui, aujourd'hui, donc il est décédé, disparu il y a maintenant 20 ans, mais il y a plus de 30 ans, 40 ans, il est un penseur qui a mis sur la scène philosophique, si l'on veut, des questions qui aujourd'hui sont des questions absolument capitales. Je pense par exemple à la question de la peine de mort, dont Derrida est l'un des grands penseurs. Je pense à la question extrêmement urgente de l'hospitalité, et la question notamment de ce qui arrive, des migrants, qui est une question dont Derrida dit il y a plus de 30 ans qu'elle est la grande question européenne, que l'Europe doit s'interroger sur la question de savoir si elle peut exister, l'Europe responsabilité, dont dit Derrida, l'Europe qui fait écho au concept de responsabilité politique et morale, comment elle peut faire pour accueillir, ou comment elle peut faire si elle n'accueille pas ceux qui se présentent à sa porte. Ça, c'est une question posée par Derrida il y a 30 ans, il y a 35 ans.
C'était dans son ouvrage en 1997, voilà, qui s'appelle « De l'hospitalité ».
Voilà, oui. Et dans le séminaire qui a paru récemment. Donc, ce sont des questions qui sont maintenant des questions absolument cruciales, des questions contemporaines, politiques, des questions européennes, des questions internationales, que Derrida a pensé il y a plus de 35 ans, à une époque où on n'en parlait pas autant. Je pense à une autre question qui est une question absolument centrale aujourd'hui, qui est la question de l'animal, dont Derrida a posé notamment dans un livre qui s'appelle « L'animal que donc je suis ». Et la question de l'animalité, la question de l'espèce, toutes ces questions de l'antispécisme, de savoir la différence entre l'animal et l'humain, sont des questions philosophiques anciennes, mais que Derrida remet au goût du jour et qu'il relie. Donc, à mon sens, l'intérêt d'enseigner Derrida aujourd'hui, c'est d'enseigner une pensée non seulement extrêmement vivante, une pensée de la complexité, qui permet de poser des questions dans leur complexité, donc peut-être pas tout de suite d'y répondre, mais en tout cas de savoir comment penser des questions absolument, des questions morales, des questions politiques. Derrida est un grand penseur de ce qu'il a appelé la démocratie à venir, et on voit bien aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'urgence de la pensée ou d'une repensée, d'une nouvelle façon de penser la démocratie. Derrida est un penseur de la démocratie, qui pense que c'est la question politique par excellence. C'est aussi un penseur de la justice, et Dieu sait, si j'ose dire, combien cette question est une question contemporaine. C'est un penseur de questions qu'il aborde de manière complexe et de questions contemporaines absolument urgentes et majeures. Et je pense qu'à cet égard, Derrida est un penseur qui intéresse ses lecteurs, qui intéresse les étudiants.
Écoute, je suis évidemment à 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je suis contente que tu aies mentionné ce livre sur l'hospitalité, parce qu'évidemment, il est d'une actualité absolument brûlante. En fait, il l'a toujours été quelque part, depuis la fin des années 90. Et justement, c'est un bon exemple, parce que je ne sais pas toi, en fait, quel est le premier texte que tu lis avec tes étudiants, mais souvent, en fait, j'utilise ce texte-là. Parce que, d'abord, il montre très bien, comme tu dis, le côté visionnaire, et en même temps, le côté aussi urgent de la pensée, puisque quand il a écrit ce texte, on se souvient peut-être de l'histoire des sans-papiers, donc c'était un petit peu le contexte dans lequel ce livre avait été écrit. C'est un entretien avec la philosophe française décédée, Anne Dufourmentel, et pour moi, c'est un texte qui à la fois montre, je ne sais pas le mot qu'il aurait aimé, mais son engagement politique par rapport aux questions politiques, aussi sa façon de les aborder, sa façon de questionner ses références philosophiques, puisque dans ce texte, il se réfère à Emmanuel Lévinas, beaucoup, qui est une très grande inspiration, un autre penseur important dans le paysage français. Et puis, il se réfère aussi à la littérature, à d'autres philosophes, etc. Mais il montre très bien aussi, dans ce texte, sa façon de pousser, je dirais, de radicaliser, si je puis dire, les questions. En nous confrontant à notre propre, à nos propres limites et à notre, presque notre propre finitude de citoyen. C'est-à-dire que lorsque dans ce texte il parle de la tension entre justement l'arrivant, celui qui vient toquer à votre porte et que vous ne voulez pas, que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas accueillir, il vient vous confronter à vos propres limites et mettre le doigt finalement sur les questions les plus fondamentales liées à ces questions, qui sont des questions beaucoup plus presque, je dirais, métaphysique, mais bien au-delà de toutes les questions institutionnelles ou avant les questions de les lois de l'hospitalité, comme il l'appelle, avec cette loi de l'hospitalité qui est une question fondamentalement de responsabilité, de justice et donc d'éthique. Mais pourquoi aussi ce texte-là, pour terminer de façon un peu plus didactique, parce que je disais plutôt que pour moi Derrida, c'est un pédagogue sans pédagogie, on l'a souvent accusé d'être illisible, justement, et d'être très hermétique. Et en fait, comme c'est un entretien, on voit aussi qu'il est d'une très grande clarté. Alors, ça peut paraître très paradoxal, parce que souvent on dit, oui, il est difficile à lire, mais en même temps, il y a quelque chose de tellement clair, de tellement clair au sens du radical. Hein, le radical qui fait réfléchir, le radical qui fait penser, pas celui qui nous immobilise justement dans nos structures et nos schèmes de réflexion. Mais oui, cet entretien, en fait, il montre à quel point la question de l'hospitalité, elle est non seulement urgente, et qu'elle a toujours été là, puisqu'il se réfère, si je me souviens bien, à Œdipe, à Antigone, etc., pour aborder cette question, mais aussi de sa clarté. Et donc, ça permet aussi un peu de contrecarrer ce cliché, je dirais, de grand, peut-être, en tout cas, de grandes critiques qu'il a reçues, c'est effectivement d'être un auteur très difficile à lire. Et la deuxième chose qui, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, mais qui m'embête beaucoup dans les interprétations hâtives que l'on fait de Derrida, c'est ce qu'on appelle en anglais « anything goes », cette espèce de relativisme exacerbé où, en fait, Derrida, finalement, parce qu'il ne propose pas de solution, dans ce cas-ci, à la question compliquée des migrants et de l'hospitalité, d'être donc un espèce de hyper-relativiste, voire post-moderniste, hein, qui, comme tu le sais, est une critique qu'il a souvent reçue, qui, je trouve, est totalement erronée.
Oui, je pense que d'abord, faire à Derrida le procès de son illisibilité, c'est très problématique, à mon sens, ne serait-ce que parce que dans l'histoire de la tradition philosophique, les philosophes sont connus pour leur complexité. Illisibilité, je ne pense pas, mais complexité, le fait que chaque philosophe de la tradition, et Derrida appartient à cette tradition qu'il relie à sa langue propre, à sa grammaire propre. Voilà. Après, le relativisme chez Derrida, je pense que c'est pas du tout le cas. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de relativisme. La question de l'hospitalité, la question de la justice, la question de la démocratie à venir, qui sont des questions, encore une fois, politiques majeures que Derrida pose. Derrida est un penseur, au fond, du politique, des nœuds, des difficultés, des impasses, des contradictions internes, notamment à la démocratie, à la question de la justice. C'est un penseur qui pense la complexité et qui pense les difficultés. Et à ce titre, il est tout sauf un penseur relativiste. Tu as utilisé le terme de radical. Bon, c'est un terme qui a aujourd'hui une fortune un peu complexe. Un peu, ouais. Mais radical, ça vient d'un mot latin qui veut dire racine. Et en fait, Derrida est un penseur de la racine ou des racines. Il critique d'ailleurs l'idée de l'origine, d'une origine immédiate, enfin supposément traçable, retraçable, d'une archive unique. Mais c'est un penseur qui va regarder à la source des textes, qui retourne à la source des questions telles qu'elles se sont formulées pour voir la manière qu'ont ces questions de s'être immédiatement ou médiatement élaboré. C'est un penseur qui va chercher d'une certaine manière dans l'histoire et dans le présent la manière dont les questions se formulent. Et à ce titre, les questions, elles se formulent avec des, on dit en philosophie, des déterminations, c'est-à-dire des moyens qui sont toujours singuliers et qui font que ces questions ont une forme donnée et qu'on est obligé depuis cette forme de les penser d'une certaine manière. Et donc, je suis d'accord avec toi, c'est un penseur de la radicalité, non pas au sens où il serait politiquement radical, mais oui. C'est un penseur qui permet de penser la manière dont les questions se sont dans le temps et au présent formulées. Il permet, au fond, de se faire son idée.
Tout à fait. Je dirais titre, radical c'est un penseur au sens démocratique. D'une mise à nu, je veux dire. C'est voilà, ça. Il nous confronte. C'est la radicalité au sens de la confrontation.
Oui. Oui. Et une confrontation qui peut être une impasse. Et qui aussi, peut être oui. et qui nous met face aux difficultés morales, politiques, de la question, par exemple, de la justice, de la question de la démocratie et de ce qu'il a appelé le pouvoir de tout dire.
Il y a un mot que tu as utilisé, Isabelle, qui, je pense, aussi caractérise très bien sa pensée et et ce qui lui tenait à cœur et je dirais, un fil conducteur aussi dans toute son œuvre, c'est la notion de la singularité. Moi, c'est aussi quelque chose que je mets beaucoup en avant quand, entre guillemets, je défends, si je puis dire, le travail de Derrida. Et cette question de la singularité, pour moi, elle a été à un moment donné dans mon travail, parce que Derrida est un penseur qui m'inspire beaucoup, mais je ne prétends absolument pas être quelqu'un qui écrit exclusivement sur Derrida. Mais je vais donner un exemple sur cette question de la singularité, parce qu'il y a la singularité, bien sûr, de la langue, des mots, tu en as parlé, mais aussi la singularité des événements, de ce qui arrive, comme tu l'as très bien mentionné. À l'époque, j'ai travaillé beaucoup sur la question du témoignage du génocide des Arméniens. Et comme on le sait peut-être, bon, en tout cas dans les années 90, ce n'était pas un sujet qui était très très fort traité. Et je me suis penchée beaucoup sur la question de la Shoah. Donc j'ai, entre guillemets, comparé le génocide des Arméniens et la Shoah. Et en fait, Derrida, c'est vraiment le penseur qui m'a appris que la comparaison, ce n'était pas réduire les choses, ce n'était pas essayer de trouver les points d'intersection, mais qu'on pouvait mettre ensemble des concepts, des questions, dans ce cas-ci des événements bien sûr hautement traumatisants, tout en soulignant leur singularité. C'est-à-dire que je pouvais m'autoriser de penser la question du témoignage du génocide des Arméniens en invoquant toute une tradition importante sur le témoignage de la Shoah, tout en reconnaissant à chaque fois, encore et toujours, la singularité des événements en question. Et je dirais que c'est ça aussi, alors c'est un exemple très très concret, évidemment, c'est pas un débat d'historien ici que j'essaie de mettre en avant, mais la singularité de chaque événement, de chaque chose, aussi minime ou aussi, je dirais, large, globale ou massive qu'elle soit. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très, très inspirant et qui, je pense, est aussi très, je dirais même, plus que nécessaire aujourd'hui dans le monde extrêmement troublé et compliqué dans lequel on vit. Et une autre chose aussi sur laquelle j'aimerais que tu nous éclaires un petit peu, parce que tu nous dis que Derrida est un penseur du politique et comme tu le sais, encore une fois, sans faire trop de divisions systématiques à l'intérieur de son œuvre, cet élément politique a été plus explicite vers la fin de son œuvre. Alors très brièvement, parce que on arrive peut-être un peu à la fin de notre discussion, je veux qu'on dise deux, trois mots sur l'événement qui nous occupe aujourd'hui, peut-être juste un petit mot sur ce passage, je dirais, de ce qu'on a appelé peut-être un peu trop simplement de ce passage post-structuraliste à un tournant plus politique à l'intérieur de son œuvre.
Alors, en fait, peut-être au risque de t'étonner, je ne pense pas que Derrida soit devenu plus politique. Demain, lors de l'événement que tu co-organises, je vais parler d'un texte de Derrida de 1967, peut-être le texte du coup d'envoi de son œuvre, qui a été largement traduit dans toutes les langues et que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle le texte de la grammatologie, qui est apparu en 67. Et dans ce texte, qui est un texte qui relie l'histoire de la tradition de manière très spécifique et qui est un texte absolument classique maintenant et extrêmement important dans l'histoire de la relecture, disons, de la métaphysique, Derrida fait une critique qui dure un bon demi-chapitre du plus célèbre des ethnologues du XXe siècle qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, qui est allé voir une tribu du nord du Brésil qui s'appelle les Nambiquara pour leur apprendre notamment à un moment l'écriture, leur a donné une leçon d'écriture. Et Derrida en 1967, bien longtemps avant au fond que les lectures décoloniales, postcoloniales n'aient le devant de la scène, disons, universitaire et intellectuelle, dénonce chez le plus célèbre des ethnologues du XXe siècle un ethnocentrisme dans cette petite leçon d'écriture qu'il donne au chef des Nambiquara. Et Derrida montre de manière absolument acerbe, on pourrait dire, mais extrêmement juste et très dur au fond pour Claude Lévi-Strauss, qui d'ailleurs s'en est souvenu, qui n'aura jamais pardonné à Derrida cette relecture d'un moment de son œuvre, un moment d'ethnocentrisme. Donc, dire de Derrida qu'il est devenu politique, je ne le crois pas. Je pense que peut-être certaines questions dont il s'est saisi dans la deuxième ou la dernière partie de son œuvre sont des questions qui sont plus immédiatement...
plus explicites.
Voilà. Mais je pense que la question politique, pour Derrida, elle est toujours déjà là. Elle est liée à sa propre histoire, au fait qu'en Algérie, il a été, et c'est sans doute ça, dit-il, qu'il a fait devenir philosophe, il a été exclu de l'école, du collège, parce qu'il était juif en Algérie pendant la... Enfin, sous Vichy, il n'a pas compris cette exclusion. Et donc, je pense que la politique pour Derrida est inséparable de la question de la démocratie, est inséparable de son désir de philosophie.
Oui, et je suis d'accord avec toi aussi sur cette idée que l'écriture est toujours déjà politique en soi. On va juste terminer peut-être sur un rappel de l'événement que j'organise ici à Amsterdam. Donc demain, nous avons une conférence avec 11 participants qui vont donc brièvement parler de leur livre préféré, de leur livre incontournable. Et puis vendredi après-midi, toujours à l'UVA, les informations sont sur le site de l'Institut, Isabelle Alfandari animera une masterclass pour les étudiants en Research Master et en doctorat. Sur le rapport entre Freud, Lacan et la déconstruction.
Oui, parce que Derrida est l'un des meilleurs lecteurs français de l'œuvre de Sigmund Freud, peut-être l'un des meilleurs lecteurs internationaux d'ailleurs de cette œuvre, et il est dans une compétition rude avec un autre lecteur de Freud qui est psychanalyste qui s'appelle Jacques Lacan. Et la découverte par Derrida de ce qu'on a appelé tout à l'heure la déconstruction est inséparable de sa lecture de Freud et de sa lecture notamment de la place de l'écriture dans le rêve par Freud.
Merci beaucoup Isabelle et on a hâte de t'écouter demain et vendredi. Merci.